Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
C'est une histoire formidable. L'histoire de Boris Lano, tirée de son livre qui paraît chez XO, « Un jour, j'écrirai une chanson pour Johnny ». Il sera là tout à l'heure. Il était fan de Johnny de père en fils, et il a écrit une chanson pour lui. Mieux que ça, il a écrit la dernière chanson de Johnny, la dernière qu'il ait enregistrée avant de tirer sa révérence, et la seule qui ait été écrite par un fan. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. Réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est un matin de bonne heure, en février 2015. Je viens de passer 3 jours à me laisser vivre chez ma mamie Gigi, à Nîmes. Le café dans la cuisine, les infos dans le fauteuil et la chambre rose dans le garage avec le gros édredon. Et là, je rentre chez moi, à Lille. Mais avant, je vais m'arrêter voir mon père à Saint-Savin, dans le Poitou. Je monte dans le TGV et une fois installé, comme d'habitude, je sors mon carnet et mon stylo et je les pose sur la tablette. Et je me mets à écrire. J'écris depuis ma première rédaction en primaire, partout. Debout, couché, en marchant, j'ai des taches d'encre sur mes jeans, je suis triste quand je perds un stylo. Chez moi, j'ai des dizaines de boîtes à chaussures remplies de carnets. J'écris du rap, du slam. Aujourd'hui, des romans, des nouvelles, des lettres, des poèmes, des portraits. Je tiens un journal aussi. Et puis j'écris des paroles de chansons que je commence et qu'en général, je ne termine jamais. Écrire pour Johnny, ça fait longtemps que ça me tourne dans la tête. Comme un secret qu'on se murmure à soi tous les jours. Je tiens ça de mon père. Le dimanche à Saint-Savin, depuis tout petit, j'ai l'impression qu'il est là, à table, avec nous. Il apparaît en général au moment du fromage. Et alors toi, Johnny, tu l'aimes bien ? Forcément, papa. Comment veux-tu faire autrement ? Depuis tout petit, il est là, en tas de 45 tours et de 33 tours, sur le meuble de la salle à manger. Et en général, le sujet de Johnny est lancé dès le début du repas. Heureusement, remarquez, parce que sinon, mon père et moi, on se parlerait pas beaucoup. Allez, tiens, tu mets le CD ? Et on écoute les premières notes à l'orgue, assis sur nos chaises comme au premier rang. Et plus fort, hein ?
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé.
Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. C'est qui l'a écrit ça ? Ben Gilles Thibault. Eh ben voilà, Gilles Thibault. Ça passait 3 fois dans les balles, ça. 3 fois à l'époque. Et tout le monde dansait. Ah, oh, je me souviens, le samedi soir, j'écoutais l'oreille collée au poste, dans le lit, sous les draps. Je sais plus ce que c'était l'émission. Dans le vent, je crois, je sais plus. On n'avait pas la télé. Hein. Et ce jour-là de février 2015, quand je me suis arrêté chez mon père à Saint-Savin, je lui ai dit « Un jour, papa, j'écrirai une chanson pour Johnny. » « Ah, eh ben dépêche-toi !» Le jour où Johnny s'en ira, c'est la jeunesse de nos parents qui partira. Le jukebox, le baby-foot, les balles. Ce sera la fin d'une histoire de plus de 50 ans où l'on croyait le bel âge éternel. Ce jour-là, nos parents ressentiront un peu plus que de la peine. Ils auront mal au dos, aux genoux, et commencera une drôle de fatigue qui finira par rester. Moi, je n'ai pas Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Je n'ai pas de site ou de blog perso. Je ne consulte mes mails que quand ça me chante et mon téléphone portable est toujours éteint et je ne connais personne dans le show business. Je vis dans mon coin, un mec qui ne fait que passer. Alors on peut penser que c'est un point faible quand on veut écrire une chanson pour Johnny Hallyday. Mais moi, je pense que c'est plutôt un point fort. Ce rêve, je vais le tenter. À ma manière, à l'ancienne, avec de l'encre et du papier. Et j'enverrai mes chansons par la poste. J'ai trouvé l'adresse de sa boîte de management à Paris. C'est pas compliqué, hein. Il suffit d'un timbre. Le courrier, c'est la magie. Le courriel, c'est la machine. De toute façon, moi, le succès, ça me parle autant qu'une pub pour un crédit immobilier. Vous voyez ? Moi, j'écris comme un berger en haut de la montagne, comme un marin qui prend la mer, comme un gangster en cavale. J'écris pour être libre. Je suis dans la lune. Et je suis persuadé que Johnny ne chantera jamais une de mes chansons. Je le fais pour le geste. Après le Poitou, retour à Lille. Je reprends mes petites habitudes. Lundi, mercredi, vendredi, boxe. À la boxe, t'es tout seul. À la salle, le vrai combat, il est contre toi-même. Gauche, droite, gauche, droite. Que tu sois costaud ou gaulé comme un os, t'as ta place tant que tu mets tes gants avec l'idée d'envoyer la peur au tapis. Après la boxe, en général, je rentre en courant. Petite foulée, jusqu'à l'atelier de Diane, ma nana. Elle est peintre. Des fois, je prends pas de douche, hein, pour rester dans ma sueur. Je me fais une belle tranche de viande avec des pâtes ou du riz, un gros dessert, un café, une clope. Et après, je me cale dans le bureau. YouTube, je tape Johnny Hallyday, reportage. Il y a des tonnes de choses à voir sur Johnny. Déjà vu. Tiens, ça. Johnny dans le métro, ça me plaît.
Johnny, t'as pas pris le métro depuis combien de temps ?
Oh ! J'ai pas pris le métro depuis au moins 35 ans.
T'as été célèbre très très vite. Et finalement, la célébrité, ça coupe de pas mal de choses.
C'est un documentaire qui dure 5 heures. 5 heures ! Hallyday par Johnny. Oh oh. Heureusement qu'il me reste du café et assez de tabac et de feuilles à rouler. Quand je le regarde, je me dis que chacun peut se dire « C'est moi, je suis lui. C'est un type qui se fout en sueur pour ne pas fondre en larmes. » J'arrête le documentaire, je descends à la cave, je m'assieds à la table, je prends une feuille vierge, je vais m'attaquer à une nouvelle chanson. Ce sera une chanson de fan, la force que Johnny nous donne. Je suis pas tout seul, hein, on est des millions. Je me lève de la chaise, je marche sans lâcher ma clope, je retourne à ma table, je rallume ma clope, je bois une gorgée de café et je commence à écrire. J'oreille, je recommence, j'oreille encore, rebelote. J'écrase ma clope, je remonte dans le bureau devant l'ordinateur. YouTube, la suite du doc.
Je veux me souvenir de tes tout premiers pas. J'ai envie de vivre pour toi, envie de vivre.
Je redescends à la cave sans même m'asseoir, debout. Et je balance les mots comme des directs, gauche, droite, gauche. J'ai la gueule de tout le monde, moitié cassée, moitié heureuse, moitié cassée, moitié heureuse. Des lumières et des ombres, souvent tout seul au fond des yeux. Ça sort, comme un boxeur sûr de sa victoire. Cette nuit, tout me vient facilement. Il n'y a aucune chance que Johnny chante une de mes chansons. Mais moi, je rêve, parce que je ne sais faire que ça.
Alors, Boris ? Johnny ?
Ben, j'écris. Ça me plaît. Vraiment, ça me plaît, tous ces moments.
Bien. De toute façon, ça va pas marcher. Alors autant le faire sans pression. Oui, Maga, celui-là. Pourquoi tu dis ça? Ça va marcher. Je le sens. Je veux pas que ça s'arrête. Toutes les nuits, je fais la causerie avec Johnny, jusqu'à ce que le jour se lève. Je regarde le doc, il me raconte sa vie, je l'écoute, je fume. J'aurais pu le regarder d'une traite, hein. Mais j'en garde toujours pour la prochaine fois. Et chaque soir, je me mets derrière ma feuille vers minuit. Il faut toujours du temps avant que vienne la magie, le moment où les doigts se mettent à écrire tout seul. Ça dure en général jusqu'à 3h du matin. Les paupières sont lourdes, mais je sais que je n'arriverai pas à dormir, trop excité par ces heures d'écriture. Alors je tape ma chanson à l'ordinateur, je l'imprime en 3 exemplaires, une pour le manager et une pour chacune des 2 collaboratrices de Johnny. Je les glisse dans 3 enveloppes, je me fais un bon petit-déj et je file à la poste comme on va prier. Diane! Tu sais que Johnny vient le 9 octobre en concert à Lille? Quoi? Ouais, le 9 et le 10. Il commence sa tournée. Il va donc passer une nuit à Lille? Ben ouais. Ok, je me débrouille pour savoir où. Combien t'as de chansons? Ben, je dois en avoir 12. C'est un album, ça? Ça peut faire un album, mais j'aimerais bien en avoir 13. Il me reste 9 mois. Ok, allons-y pour 13. Elle a trouvé. Il va dormir à l'hôtel Casino Barrière. La veille du concert, on va boire un verre au bar, comme des gangsters en repérage avant un braquage. À gauche, la réception, ok. À droite, le grand escalier, ok. L'ascenseur, et là, l'entrée du bar. J'ai mon recueil de textes dans mon sac. Et demain, je compte bien le lui remettre en main propre. Me voilà donc à l'hôtel Casino Barrière de Lille, le 9 octobre, jour du premier concert. Il est 14h01. Pas de tapis rouge, pas de cordon VIP. Et déjà quelques fans qui attendent, dont un type en fauteuil roulant qui s'appelle Mika, un barbu avec de bonnes joues.
Ah, moi je suis arrivé à 11h.
11h? T'es fan alors?
Oh non, j'aime bien Johnny, mais moi je suis chasseur.
Il chasse la célébrité, les selfies qu'il diffusera sur son blog perso comme des médailles.
Tu vois, je fais ça parce que ça me donne un but, quoi. Tu vois, ça me fait voir du monde, quoi.
Et t'en as combien de selfies?
À peu près 1000. Mais il m'en manque un. Johnny.
Et toi?
Moi, j'écris des chansons pour Johnny.
On se cale sur le côté. À travers le mur de verre, on peut voir le hall, la réception et l'ascenseur. Et puis un car arrive et s'arrête. Et Mika et moi, on reste bloqués comme devant une apparition. On voit des gens se lever de leur siège. Le chauffeur descend, il ouvre les soutes. Il y a une guitare dans le coin, c'est le car des musiciens. Les choristes descendent les premiers. Et puis le batteur, le bassiste. Il faut que je remette mon recueil à l'un des musiciens, un musicien qui soit son ami. Et là, j'aperçois son guitariste, Yarol Poupeau. Je réfléchis pas, j'y vais.
Bonjour. Excusez-moi, je vais vous prendre juste 10 secondes de votre temps. J'ai écrit des chansons pour Johnny. Vous pourriez les lui faire passer?
Attends, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Il vaut mieux les donner à la bonne personne. Bertrand! Bertrand!
Un grand type se retourne. Je l'ai déjà vu. Je sais plus où, hein, à la télé ou sur Internet, mais je l'ai déjà vu.
Tiens, c'est pour toi, c'est des chansons que monsieur a écrites.
Ça y est, ça me revient, c'est Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny. Il fait défiler les pages de mon recueil.
Tout ça? Oui, tout un album.
Moi, j'attends un mot de sa part, une question, le pourquoi du comment. Il ne dit rien. Il roule le recueil. Et il le glisse dans la poche arrière de son jean.
Hé, le perdez pas, hein.
Après, je rentre chez moi, pendant le concert. Je retournerai devant l'hôtel dans 1h30 ou 2h. Faudrait pas qu'après le concert, serviette autour du cou, il monte direct dans sa voiture. Les grands fauves ont parfois besoin de s'isoler pour lécher leurs blessures.
Allô ? Papa ?
Bon ben, je suis allé attendre Johnny.
Devant son hôtel ? Et tu l'as vu ?
Non, non, mais j'ai vu son directeur artistique, figure-toi, Bertrand Lamblot. Ben, je lui ai filé mon recueil de chansons, quoi.
C'est un peu le bras droit de Johnny, c'est ça ? Eh ben bravo, dis donc ! Fallait le faire, hein ? Bravo ! Vraiment bravo !
Attends, y a rien de fait, hein ?
Ouais, mais bon, tu te rapproches ?
Hôtel Casino Barrière de Lille, samedi 10 octobre 2015, 3h57 du matin. On est 30, 40 à tout casser sur le parvis de l'hôtel. Le concert est terminé, il fait froid.
Bon, mesdames et messieurs, s'il doit se passer quelque chose, c'est lui qui viendra vers vous, d'accord ? Pas l'inverse !
Et après, ils font de nous deux rangées, une haie d'honneur.
Ok, le passage au milieu reste libre, hein, vous m'entendez ? Allez, reculez, voilà.
Je suis le dernier de la rangée, tout près des portes vitrées. Tellement près qu'on pourrait me prendre pour le groom. J'ai zéro stress, mais une sacrée concentration, une bête de confiance. Et soudain, un moteur plus fort que les autres déchire le silence. La sécu se raidit. Les chasseurs enlèvent leurs gants pour ne pas rater le moment d'appuyer sur le bouton. Et moi, je plonge doucement la main dans mon sac à dos et j'en sors le recueil de textes. Et je lis une dernière fois la phrase inscrite sur la première page. Et si le 50e album de Johnny était écrit par un fan ? Fais gaffe, hein. Rate pas ton moment. Johnny, à 1 mètre de toi, tu le reverras jamais plus de ta vie. La prochaine voiture, ça sera lui.
Le voilà !
La caisse s'arrête en douceur sur le bord du pavé. Plus rien ne bouge. Personne n'ose parler. On se croirait dans une église. Et là, la porte arrière s'ouvre. Une botte en cuir se pose sur le sol. Il sort lentement, chapeau et veste à franges. Démarche au ralenti du mec qui n'a plus rien à prouver. Un peu courbé. La fatigue du concert, sans doute. Mais les épaules toujours rock'n'roll. Il tire une dernière fois sur sa cigarette. Il la jette.
Bon, on va faire vite, hein. Je suis crevé. Johnny ? Ah, Johnny ! Johnny ! Johnny !
Il s'avance comme un Lonesome Cowboy. On le photographie. Il vient vers nous. Et dans mon coin, ça commence à pousser un peu. Les mains se tendent, les fleurs. Il serre la main de Mika dans son fauteuil. Et il me la tend aussi. Et là, je prends ses yeux en pleine figure, que du bleu. Et je lui tends mon recueil. Il le prend à deux mains. Il s'arrête une seconde. Il lit la phrase d'accroche.
Johnny, j'aimerais écrire votre 51e album.
Et les portes de verre se referment.
Et les mois passent. À l'été 2016, je m'installe à Paris. Je trouve une piole à Pigalle, mon Paris préféré. Coupe-gorge, baiser dans le cou, kebab et sex-shop.
Ma piole est dans la rue parallèle à celle où Johnny est né. Il a dû prendre cette rue des dizaines de fois. Et je prends un abonnement aux Trois Baudets, salle mythique. C'est là qu'ont débuté Brel et Brassens. Ça fait près d'un an que je suis à Paris. Ce soir, je n'ai pas envie d'aller aux Trois Baudets. J'ai pas envie, mais j'y vais. Et devant l'entrée, je me retrouve nez à nez, tellement nez à nez que je lui tire la porte, avec un type que je reconnais tout de suite, Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny. Et en bon flic en civil, je le suis. Il prend son entrée, il descend l'escalier, je suis à 5 mètres de lui. Il s'assoit. Je me place deux rangs au-dessus. À l'entracte, il se lève. Il faut que je sois dehors avant lui. Tant pis si je me prends un vent, tant pis si j'ai l'air d'un con. On n'a qu'une vie. C'est peut-être ma chance.
Bonsoir. Excusez-moi, vous êtes Bertrand Lamblot ?
Oui. On se connaît ?
Oui. On s'est vu devant l'hôtel à Lille le soir du concert de Johnny. Je vous ai remis des textes.
Oh, ça c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. Putain, c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. Figurez-vous que pas plus tard que la semaine dernière, je parlais de vous à Maxime Nucci. Votre recueil le soir où vous me l'avez donné. Ah ben le soir même, je l'ai donné à Maxime Nucci. Ben, il l'a gardé. Et puis Johnny lui a demandé des nouvelles chansons. Et je crois qu'un jour par hasard, chez lui, ben, il est tombé sur votre recueil dans un tiroir. Il s'est plongé dedans. Et plus tard, il me l'a redonné. Et il m'a dit, tu devrais lire ça, il y a des trucs pas mal. Vous avez mon email, monsieur ?
Non.
Eh bien, prenez-le. Et renvoyez-moi des chansons. Je veux pas vous donner de faux espoirs. Hein. Y a rien de sûr. Vous savez, moi, j'aime le chanteur. Et puis j'aime l'homme aussi. Si vous voulez, j'ai le sentiment d'avoir les mots pour lui. Le pouvoir de lui écrire des chansons qui lui colleront à la peau.
Vous avez un nouveau message. Message reçu le 19 septembre à 10h13.
Oui, bonjour Boris. C'est Bertrand Lamblot. Vous pouvez me rappeler dès que vous avez ce message, s'il vous plaît ? Merci. À très vite.
Boum ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, mon téléphone vibre. Cette fois, c'est un SMS. Bonjour Boris. C'est Bertrand Lamblot. Pouvez-vous me rappeler, je vous prie ? Cordialement. Badaboum ! Pogo dans la piole !
Bonjour ! Monsieur Lamblot ?
Ah, Boris ! Bonjour, vous allez bien ?
Oui, je vous remercie, ça va ?
Voilà, Maxime Nucci et Yarol Poupeau ont composé sur un de vos textes cet été. Et Johnny a enregistré la chanson.
Oui, j'écoute.
C'est la chanson « Tomber encore ». Il faudrait qu'on se voit pour que vous l'écoutiez, quoi.
Allô ? Papa ?
C'est la dernière fois que Johnny s'est retrouvé derrière un micro. C'est la dernière fois qu'il a chanté. C'est l'ultime chanson de 57 années de carrière. C'est la seule chanson écrite par un fan. C'est la chanson de tous les fans.
Je ne vois plus que toi quand tu croises les gens. L'ombre de tes pas et le ciel qui rend. Il me suffit de peu, un pli à rebours, que la mer s'ouvre en deux.
Voilà, Boris Lano, faut que je la laisse un peu pour vous permettre de toucher des droits d'auteur. Hein, plus de 30 secondes à la radio, ça se déclenche.
Ah, c'est surtout pour entendre Johnny chanter encore.
Hein. Et les deux. Ça va ? C'est une expérience.
Ah oui, on y est. Hein.
Que de on vivre sa propre histoire comme ça, à travers la voix d'un autre, qu'il vous l'a juste prêté, car ce sont vos mots et uniquement vos mots.
Oui, c'est bien de retrouver tous les gens que j'ai croisés sur le chemin.
Ça a changé votre vie ?
Johnny change nos vies. À nous tous qui l'aimons.
À part ça. J'ai le pressentiment que non, en vérité, parce que comme vous n'êtes pas orienté business, évidemment, vous n'allez pas faire fructifier cette affaire.
Non, parce que l'affaire est finie. L'affaire, et c'est même pas une affaire, c'est un rêve. C'était d'écrire pour Johnny, c'était de faire couler l'encre pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui aime les mots, qui aime les mots le traversent. Donc, c'est fait. Il a chanté et j'en espérais pas tant, à vrai dire.
Mais est-ce qu'on vous appelle, par exemple, pour écrire des chansons ? Est-ce que du coup d'autres chanteurs se disent « Tiens, ce garçon sait écrire des chansons
populaire, c'est pas courant. Est-ce qu'on vous appelle ?
Je suis toujours en contact avec Johnny, oui.
Et ? Parce que vous ne pouvez pas écrire pour d'autres ?
Certainement que si.
Ouais. Mais ça se fera pas.
Pour moi, je suis encore tout près de ces moments que vous venez de raconter. Mmh. Vous voyez, tous ces moments que vous racontez, j'ai bien aimé au début, parce que vous parlez de faire couler l'encre, vous parlez de mes carnets qui restent dans mes boîtes à chaussures, vous parlez du moment dans la cave où je descends pour écrire. Moi, je suis encore tout près de ces moments-là. Mmh. Et dans ces moments-là, il y a tous les gens que vous avez nommés, mais bien entendu, il y a Johnny qui est là.
Donc, si je comprends bien, il y a une hypothèse dans laquelle il n'y a pas vraiment de suite à cette histoire et vous retournez sur la Lune.
Ben c'est là-bas que tout s'est passé, hein.
Ouais.
C'est sur la Lune que tout s'est passé, hein. Johnny, il a une très belle phrase dans le même documentaire dont vous avez passé un extrait, qui s'appelle « À l'idée par Johnny ». Il a une très belle phrase où il dit « Il n'y a que mon corps qui est là, le reste est ailleurs ». Eh bien voilà, je crois qu'on était appelés à se rencontrer sur la Lune, comme vous dites.
Alors, tout le temps où j'ai écrit votre histoire, je me suis posé cette question. Vous êtes un drôle de fan. En fait, vous êtes un peu un fan à part. Votre père semble être un fan typé, classique de Johnny Hallyday. Vous, j'ai l'impression que vous avez transformé tout ça et que vous avez votre rapport très personnel à Johnny Hallyday, qui n'est pas forcément le même que les types en Harley qui débarquent sur les concerts. Je me trompe ou pas ?
Je pense que derrière chaque fan, il y a une histoire personnelle, même si elles sont appelées à se rejoindre et qu'elles ont des points communs. Mmh. Parce que Johnny, en 57 ans, a forcément chanté une chanson
qui vous parle,
qu'on raccroche à un moment de sa vie. Donc tout ça, ça tient de l'intime. Mon père, c'est essentiellement sa jeunesse, parce que le rock'n'roll est arrivé dans les années 60, à une époque où la vie changeait, et c'était un vent de liberté qui venait souffler. En ce qui me concerne, moi, c'est au-delà du chanteur, c'est le bonhomme. C'est-à-dire que j'aime les gens qui me montrent un chemin à suivre, Et Johnny, de par son besoin de liberté, me montre une route que j'ai envie de prendre.
Mais vous avez conscience qu'on peut sentir un décalage entre l'intello poète que vous semblez être.
Ah non.
Intello, parce que passer par l'écriture, c'est néanmoins une démarche intellectuelle. C'est vous êtes un homme de l'écrit et donc pas un homme de la fabrication de l'objet. J'y peux rien. Vous êtes un intello.
Non. Déjà, je sais pas ce que c'est, parce que je sais pas ce que c'est.
Un poète, alors.
J'essaye d'être un poète, mais je pense qu'on l'est tous. Moi, je pense que. Je pense, comme vous le disiez au début, quand on parlait d'encre, l'encre, elle peut couler dans toutes les mains. Et écrire n'est pas un acte intellectuel. Écrire, c'est raconter la vie, c'est vivre la vie, c'est la ressentir et c'est mettre les mains dans l'encre pour en parler.
Non, je dis ça parce que vous avez une plume en plus. C'est-à-dire votre bouquin n'est un pas ennuyeux à lire. Deux, il y a quelque chose de ouais, il y a une plume, ce qu'on appelle une plume, c'est un talent pour l'écriture, le talent. Ça renvoie quand même au cerveau.
Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Le reste, c'est de la sueur. C'est un copain de Johnny qui disait ça, qui s'appelle Jacques Brel.
Je me demandais aussi si, au fond, vous n'étiez pas d'abord et avant tout un fan de votre père. On sent énormément d'amour pour lui. Et au fond, il vous a légué ça. Ça a constitué, au fond, le cœur de votre histoire familiale, Johnny Hallyday. Et dans le fait que vous êtes fan pour Johnny, il y a aussi le fait que vous êtes fan de votre père. Ouais.
Oui.
Ouais.
Mais oui, c'est. C'est l'histoire. C'est l'histoire intime. C'est l'histoire intime. On est une part de nos parents.
Ouais.
On est une part de nos parents. Et moi, je retrouve beaucoup de ce qu'est Johnny dans mon père, ou beaucoup de mon père dans ce qu'est Johnny. Encore une fois, le besoin de liberté dont on parle, la gentillesse, l'intelligence. Et puis, comme un fan veut se rapprocher de son idole, et ben, être fan de mon père, c'est me rapprocher de lui.
Et il a été heureux, je suppose, évidemment, de l'issue de cette incroyable histoire.
Oui, oui, bien entendu. On est originaire de la campagne, et vous savez, à la campagne...
Saint-Savin, dans le Poitou.
Saint-Savin, oui.
Très jolie ville,
oui.
Mais c'est vrai, peu valorisée.
Ah, on a une grande église. On a une grande église.
Abbatiale, c'est ça.
Oui, ouais. Avec des fresques qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO.
J'ai visité.
Ah, vous êtes venu, oui.
Ouais.
Et oui, on est originaire de la campagne et à la campagne, on montre pas trop ses sentiments. Vous voyez, c'est quelque chose. Les sentiments, on laisse ça au silence. Mm. Donc, mon père est pas quelqu'un de démonstratif, mais. Ouais. Mais encore une fois, quoi.
Il était heureux et
à la Johnny, quoi. Il le montre autrement qu'avec des mots.
Vous avez écrit une chose formidable sur la mort de Johnny qui se profilait déjà au moment où vous faites tout ça. Il est malade, tout le monde le sait. Il y a eu plein de pépins, il a été rapatrié, etc. Et vous dites, le jour où Johnny s'en ira, c'est la jeunesse de nos parents qui partira. Le jukebox, le babyfoot, les balles. Ce jour-là, nos parents ressentiront un peu plus que de la peine. Ils auront mal au dos et aux genoux et commencera une drôle de fatigue qui finira par rester. Ce qui revient à dire qu'ils en mourront. C'est ça, de la mort de Johnny. Ils auront du mal à lui survivre.
C'est leur copain de jeunesse qui s'en va. Donc leur copain de jeunesse qui s'en va, c'est aussi leur jeunesse qui part. Et c'est quand même un copain, un ami d'enfance qui restait jeune pendant 74 ans. Et quelqu'un qui reste jeune pendant 74 ans, nos parents restent jeunes aussi pendant toutes ces années. Et il vient un moment donné où cette jeunesse, elle devient un souvenir quand Johnny s'en va. Elle devient un souvenir comme des photos qu'on garde, comme des articles de journaux qu'on a découpés.
C'est l'âge où on vit de nostalgie.
Oui, c'est... Malheureusement, c'est... Même le bon souvenir, on l'alarme à l'œil, parce que justement, ils sont que des souvenirs.
Alors, vous avez pratiqué dans cette affaire une méthode que vous qualifiez de à l'ancienne, c'est-à-dire que vous n'avez pas envoyé de mail, vous avez écrit des lettres que vous avez mis dans des enveloppes avec un timbre que vous allez déposer à la poste. Est-ce que vous avez su si les lettres successives que vous avez envoyées au fur et à mesure que vous écriviez vos chansons sont arrivées auprès de Bertrand ou de gens de l'entourage de Johnny, ou est-ce qu'elles sont allées direct au panier?
Non, alors c'était avant Bertrand Lamblot, avant que je remette le recueil de la main à la main. Et oui, elles sont arrivées parce qu'elles me sont même revenues, certaines. Mais
elles ont été lues, elles ont été prises au sérieux.
Je pense qu'elles ont été prises au sérieux. Quand on voit la suite de l'histoire et comment l'entourage de Johnny prenne au sérieux un inconnu qui débarque avec un recueil de textes et une phrase qui dit « Et si le 50e album de Johnny était écrit par un fan ?» Donc oui, je pense qu'elles ont été prises au sérieux. Mais après, si elles me sont revenues, c'est les deux collaboratrices de la boîte de management dont vous parlez dans l'histoire. C'est juste un message qui m'est renvoyé. On les a vus, voilà. C'est pas nous qui nous occupons de ça.
Ouais.
Et j'ai bien aimé ce message, même s'il tient du symbole et qu'il n'y a pas de mot derrière, le fait de renvoyer les lettres, ça veut dire ce n'est pas nous qui nous occupons de ça. Et quelque part, l'écho de ce retour des lettres, eh bien, ce qui a résonné, c'est essaye de t'y prendre autrement.
Alors, il y a une part de hasard complet dans la suite de cette histoire, parce que si Yarol Poupeau, ce qu'on peut parfaitement comprendre, prend votre feuille de, enfin votre petit recueil, le colle dans un coin de sa loge, l'oublie le soir en partant, et une femme de ménage le fiche à la poubelle, il n'y a pas la fin de l'histoire. C'est quand même la générosité de Yarol Poupeau qui est au début de toute l'histoire. C'est-à-dire, il vous oriente vers le bon bonhomme. C'est généreux de sa part.
Ah oui. Et il a fait ça simplement. Comme je le dis dans le roman, il a fait ça comme s'il me dépannait d'une clope. alors que ça a fait ricocher, quoi, ce geste-là.
Ouais. Mais vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui? Vous l'avez vu en studio?
Oui, on s'est recroisés par hasard.
Parce que c'est l'homme clé quand même de votre histoire, l'air de rien.
Oui,
c'est parce qu'il prend le truc. Moi, je me mets à la place de Poupeau. Je prends le papelard, je le mets dans la poche, j'arrive dans la loge, je le fiche sur le truc, et puis le soir, je le laisse avec les bouquets de fleurs, avec tout ce qu'on prend pas, avec tout ce que les fans apportent et donc qu'on peut pas garder quand on est en tournée, parce que sinon, ça devient dingo, quoi.
Oui, mais quelque part, il y a du Johnny là-dedans. Parce que c'est un geste simple, mais humain. Et qui rapproche les gens, comme l'était Johnny, comme le sont les gens qui aiment Johnny.
Parce qu'ils doivent en voir quand même, hein, date après date, soir après soir, hôtel après hôtel, des types devant la porte, des moitiés cinglés, des qu'ils ne sont pas, mais bon, il faut faire face à tout ça, ils pourraient écarter, ouais, ils vous accordent de l'attention.
Ouais, c'est des rockers aussi. Hein.
Ouais.
C'est des rockers, donc à un moment donné, ce qui vient, comme le dit un ami d'enfance, j'aime bien cette expression de la chair à la chair, ils prennent, hein. Ils ouais. prennent. Le rock'n'roll, c'est ça aussi. C'est un mec qui est sur scène et qui se jette dans le public.
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que Bertrand Lamblot, ayant récupéré ce texte, le donne à Maxime Nucci. Dans Maxime Nucci, je l'ai pas dit parce que vous le dites pas, mais en fait, c'est Yodelis. C'est le chanteur Yodelis, hein, c'est comme ça qu'il est connu et il écrit un certain nombre de musiques pour Johnny Hallyday à cette époque-là. C'est son compositeur à la mode du moment. Ce qu'il séduit, Lamblot, dans cette démarche, c'est, à votre avis, l'idée qu'un fan écrive un jour une chanson de Johnny? Il y a un côté marketing dans l'histoire?
Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est... c'est...
De la gentillesse. De l'attention.
Alors, au niveau de l'intérêt porté à mon recueil de textes et à la chanson, oui, c'est ce qu'on disait, c'est la même simplicité, la même humanité que chez Yarol Poupeau ou que chez Johnny. Et après, pour reprendre les mots de Bertrand Lamblot, parce qu'il me l'a dit, tout simplement, Johnny aimait la chanson. Voilà, c'est la raison première pour laquelle elle s'est retrouvée sur l'album. Mais comment dire, l'avant de tout cela...
Mais il n'y a pas
l'intérêt porté.
Tiens, c'est marrant, on n'a jamais pensé à faire écrire une chanson par un fan, ça nous ferait une histoire à raconter.
Non. Puis on le sent dans ce qu'est ce dernier album. On sent encore toute la spontanéité de Johnny quand il est derrière le micro. C'est quelqu'un, on m'a raconté après, quand il était en studio, il faisait deux prises, trois prises maximum d'une chanson, et s'il ne ressentait pas, il laissait tomber. Eh bien, dans sa manière d'être au quotidien et dans sa manière de mener sa carrière, c'est pareil. Il n'y a rien de calculé, c'est rien que du spontané. C'était de l'encre, il en a fait de la sœur.
Est-ce que vous pourriez écrire une chanson pour le faux Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan, qui cartonne en ce moment, qui est le plus grand vendeur de disques en France, qui a juste pris la suite du mythe? Ça vous paraîtrait possible ou indécent?
Non. Bah, c'est pas le faux Johnny Hallyday. Enfin, moi, j'ai envie de l'appeler Jean-Baptiste Guégan.
Vous l'aimez bien.
Je le connais pas.
Écoutez.
Je l'ai pas écouté. Et je vais vous dire pourquoi. Je l'ai pas écouté parce que, comme je le disais au début de notre discussion, au-delà du chanteur, moi, j'aime le bonhomme Johnny.
Ouais.
Et donc, j'ai besoin de l'homme.
Ouais.
Au-delà de la voix. Et même s'il est toujours là, bah, Johnny, je le cherche un peu plus qu'avant quand même, mais il est toujours là.
J'ai adoré raconter votre histoire, Boris Lanneau. Un jour, j'écrirai une chanson pour Johnny. Votre livre paraît aux éditions XO et je le redis, il va bien au-delà du récit que j'ai fait. Il y a des moments assez extraordinaires avec vos potes, de discussions que vous avez avec eux, qui sont... Vous payez cash. C'est assez intime finalement comme bouquin, beaucoup plus que ne semble l'indiquer le récit que je viens de faire. Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.